pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. On commence comme toujours par l'incipit, la première phrase d'un roman. J'ai choisi la première phrase d'un roman que je viens de lire, celui de Frédéric Becbédé, le dernier. Elle m'a bien plu, sa première phrase, la voici. Je m'appelle Octave Parango et j'ai 74 ans dans 20 ans. Efficace, un peu absurde aussi, du pur Becbédé qui sera d'ailleurs avec nous la semaine prochaine pour nous parler de son nouveau livre qui n'a pas de titre, juste un smiley hilar en couverture. Il nous expliquera pourquoi. Des livres, nous en découvrirons beaucoup d'autres chez Frédéric Lenoir. Il nous a ouvert les portes de sa bibliothèque. L'équipe des libraires de l'émission se tient prête pour de bonnes idées de lecture et nous terminerons bien sûr avec la chronique jeunesse de Victor Dolande. Mais d'abord, c'est l'invité et lequel, vous allez voir. La Voix est libre, c'est parti, premier chapitre.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
On le connaît pour la saga Malocène notamment, ou pour Chagrin d'école, ou Journal d'un corps, c'est l'un des écrivains préférés des Français. Il faut dire qu'il en a réconcilié beaucoup avec l'école notamment. C'est vrai que tout le monde aurait rêvé de l'avoir comme prof de français. J'embrasse quand même Madame Barré au passage, et bonjour Daniel Pénac.
Bonjour Nicolas.
Vous publiez La loi du rêveur chez Gallimard. Ça ne va pas être facile d'en parler. Je vais marcher un peu sur des œufs, puisqu'il ne faut surtout pas casser ce livre en dévoilant trop, même si on peut quand même le résumer par la phrase en exergue du livre, à cette citation magnifique de Fellini. Lorsque j'avais 6 ou 7 ans, j'étais convaincu qu'il existait deux vies. L'une où l'on vivait les yeux ouverts et l'autre les yeux fermés. Vous aussi, vous en êtes convaincu, Daniel Pénac ?
Absolument, mais absolument.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Je vais vous raconter une histoire.
Ah oui,
d'accord.
Ça,
parce qu'il y a 36 000 façons de rentrer dans un roman, à commencer par raconter une histoire qui n'a pas grand-chose à voir avec le roman et qui pourtant l'exprime tout à fait. C'est un roman. Et Nabokov disait que le personnage principal de tout roman, c'était le hasard. Encore faut-il se le figurer, vous présenter le hasard. Alors, il disait Nicolas, figurez-vous un transatlantique, un vrai des années 30, avec des salons dans lesquels on danse, etc. Mm-hmm. Maintenant, figurez-vous un type dans ce salon dansant, dans ce transatlantique, toute la nuit. Il a son nœud papillon, ses boutons de manchette, son smoking, etc. Et sur le coup de 3 heures du matin, il est fatigué, il veut aller prendre l'air sur le pont, il sort du salon dansant, il va sur le pont, il va à la poupe du bateau à l'arrière, il dégrafe son nœud papillon, mmh. Il dégrafe ses boutons de manchette et il décide de respirer un bon coup l'air du Pacifique. Ça. Et la brise lui chatouillant le nez, voilà que notre homme éternue. Et ses deux boutons de manchette. Des boutons de manchette dont chacun constitue une fortune colossale, des diamants énormes qui lui viennent de son trisaïeul. Ces deux boutons de manchette tombent dans l'océan Pacifique et coulent. Le même homme, 6 mois plus tard, à New York, entre dans un restaurant de poissons. Restaurant de poissons le plus fameux au monde. Commande un bar de ligne, un poisson sauvage. Le maître d'hôtel débarque avec son bar de ligne et lui dit « Monsieur Nicolas, voulez-vous que je vous le prépare ?» Et notre homme dit « Non, je vais le préparer moi-même. » Il prend sa fourchette, prend son couteau, il ouvre le bar de ligne et les boutons de manchette ne s'y trouvaient pas.
Je me disais, il ne vient pas nous le faire quand même.
Voilà ce que j'apprécie avec le hasard, concluait Vladimir Nabokov. Ben, ouais, c'est le roman dont vous ne savez pas comment parler, c'est ça, ce que j'ai écrit là, la loi du rêveur.
La loi du rêveur, qui sont, quand même ça on peut le dire, il y a certains passages qui sont en fait des rêves que vous nous racontez. Parfois il y a des choses vraies, parfois vous étiez donc en train de rêver. Il n'y a pas vraiment de frontière, parce que comme vous l'écrivez, on ne sait pas vraiment au fond quand commence un rêve. C'est très difficile de savoir quand s'endort la réalité au profit du rêve.
C'est-à-dire que quand on atteint un certain âge, ce qui est mon cas, on s'aperçoit que le rêve, l'imagination qui a été l'affaire de ma vie, puisque j'ai écrit des romans toute ma vie, et les souvenirs, en réalité, se confondent. Ma femme se demande quelquefois si nous avons vécu la même chose, tant ma mémoire est fantaisiste. Et ce roman, La loi du rêveur, c'est tout simplement l'itinéraire d'un homme entre ces trois éléments de sa vie que sont le rêve, l'imagination et le mensonge. Plus une amitié intellectuelle pour Federico Fellini. Fellini rêvait. Et tous les matins, en se réveillant, il tenait le journal de son rêve, comme moi d'ailleurs, je tiens le journal de mes rêves. Sauf que lui dessinait et peignait les rêves dans le même temps qu'il les écrivait. Il les écrivait dans la place laissée libre par les dessins et la peinture. Et l'œuvre de Fellini, l'œuvre cinématographique de Fellini, doit énormément à ce journal de ses rêves, au fait qu'il rêvait. Il y a quelque chose de très triste dans la fin de sa vie. Il est mort à peu près à l'âge que j'ai aujourd'hui. Et d'une certaine façon, il est mort de ne plus pouvoir rêver. Il ne rêvait plus. Il ne rêvait plus au sens propre
même
du mot.
S'il avait compilé ses rêves, qu'il dessinait dans un livre.
Voilà.
Le livre des rêves.
Quoi, donc, et le livre des rêves qui va sortir, qui sort en même temps que Ma loi du rêveur. Ça s'intitule, ça sort chez Flammarion, c'est un énorme bouquin où on voit tous les rêves de Fellini. Et alors, prenons par exemple le cas de Fellini. Certains de ses rêves sont devenus, pas immédiatement après d'ailleurs, il y en a un, 17 ans plus tard, il écrit Prova d'orchestre, qui est une répétition de musiciens qui se comportent comme des crétins avec la musique, qui rouspètent, qui n'en ont rien à foutre, qui sont atroces, et sur lesquels finalement le lieu de répétition s'écroule. Or, Fellini avait rêvé à ça 17 ans plus tôt. 17 ans plus tôt, il rêve qu'il est dans un opéra, on lui demande de chanter. Et alors, il ne veut pas chanter, parce qu'il se dit, je chante, ma voix est si puissante, ce qui est marrant, parce qu'en réalité, Fellini avait une espèce de voix de pinson. Il dit, ma voix est si puissante que si je chante, l'opéra va s'écrouler sur les musiciens. Et donc, il ne chante pas dans son rêve. Et il est très heureux, parce qu'en ne chantant pas, il a la sensation d'épargner la vie de tous les musiciens. Et 17 ans plus tard, il écrit Prova d'orchestre qui au fond, est très, très inspiré de ce rêve.
C'est drôle parce que vous faites comme dans votre livre. C'est-à-dire que j'essaye de vous faire parler des rêves, ce dont parle votre livre. Et puis, il est aussi un peu question de Fellini dans le livre au début, même si c'est surtout les rêves. Et puis, petit à petit, c'est beaucoup de Fellini, puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de Fellini. Est-ce que vous ne vouliez pas écrire un livre sur Fellini et d'où vous vient cette passion pour Fellini?
Ah, du fait qu'il m'a nourri d'images toute ma vie, quoi. Toute ma vie. Quand j'étais jeune, j'attendais la sortie des films de Fellini. Hein. Ensuite, grâce au DVD... Je les ai revus, mais indéfiniment. À Marcord, j'ai dû le voir, je ne sais pas combien, plus de 100 fois. Ou alors, je chope des séquences par-ci, par-là, que j'ai envie de revoir. Je lui dois énormément. Parce que de m'avoir à ce point rempli d'images a certainement contribué au fait que j'ai moi-même écrit des livres d'images. Les Malocènes sont des livres d'images. Enfin, en tout cas, sont des livres de métaphores.
Et souvent aussi des rêves éveillés. C'est aussi ça, ce livre, La loi du rêveur, dont on continue de parler dans un instant.
La voix est libre.
Nicolas Carreau.
Retour dans La voix est libre avec le grand Daniel Pénac, qui publie son nouveau livre chez Gallimard, La loi du rêveur. On le disait tout à l'heure, alors il est compliqué de parler de ce livre, il faut le lire, hein, c'est le plus simple. Ce sont des rêves, mais on ne sait pas quand ils commencent et quand ils se terminent, Daniel Pénac.
Il m'est arrivé un truc dans mon enfance terrible. C'est-à-dire que j'ai été victime d'une inondation de lumière.
Ah oui,
au sens
beau, c'est
propre
le début du
mot.
C'est-à-dire,
ma chambre a été envahie par une lumière liquide qui ne rayonnait plus. C'est une espèce de lumière morte, comme ça, qui a envahi la maison tout entière, qui a recouvert la commode de ma grand-mère sur laquelle il y avait un Saint-Sébastien, et Saint-Sébastien s'est retrouvé noyé. Alors évidemment, j'ai voulu sortir de cette maison par la chambre de mes parents, et là je me suis aperçu que la ville entière était inondée de lumière. Un tsunami de lumière morte, comme ça, de lumière qui ne rayonnait pas. Alors, on peut se demander, quand on entend un type à peu près censé raconter ça, on peut se demander comment c'est possible. Alors, comment une inondation de lumière, au sens propre de lumière liquide, est-elle possible? Première question. Deuxième question, comment m'en suis-je sorti? Parce qu'il faut s'en sortir, j'aimerais autant vous dire. Jamais je n'ai vu pareille panique. Jamais je n'ai vu l'homme à ce point réduit à sa condition. C'est-à-dire sa condition de tueur dès qu'il est menacé. Dès qu'il est menacé, il est prêt à faire n'importe quoi. Jamais je n'ai plus revécu ça. Alors, si maintenant vous voulez savoir, un, comment cette inondation de lumière est possible, et deux, comment je m'en suis sorti, je n'ai pas d'autre solution que de lire le livre.
Et d'ailleurs, il y a une certaine logique dans ce délire onirique aussi. La lumière est liquide pour une raison très particulière et très logique et très rationnelle, finalement, qu'on n'expliquera pas ici, mais justement, à partir de cet exemple de la lumière liquide, le rêve, c'est quand même l'endroit où la poésie peut se déchaîner complètement, quoi, puisque tout est possible.
C'est-à-dire que le rêve, il y a deux types d'utilisation. On rêve, d'abord, vous savez que c'est une fonction vitale. C'est-à-dire qu'il y a des éthologues qui se sont penchés sur le rêve et qui ont empêché certains animaux de rêver, les chats par exemple. Bon, si on empêche un chat de rêver sans le réveiller, c'est-à-dire en plaçant des électrodes, là, et puis dès qu'il y a des mouvements paradoxaux qui s'installent, bing, on lui voit une minuscule décharge qui l'empêche de rêver, mais ça ne l'empêche pas de dormir. Bien, le chat devient fou et finit par mourir. Il devient fou, il ne mange plus et il finit par mourir. Donc, c'est une fonction absolument vitale. Alors là, il y a deux utilisations. Soit on le soumet à des interprétations de psychanalystes, des analyses. Je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait parce que, d'une certaine façon, je ne m'intéresse pas. Mon inconscient ne m'intéresse pas. Je m'en fous, la question de ça. Je m'en fous parce que l'explication m'installerait dans quelque chose de définitif, qui ne m'intéresse pas. Donc ça, c'est la première utilisation du rêve. La deuxième, c'est de considérer le rêve comme une source non rationnelle, non presque non formulable de récit. Au fond, qu'est-ce que c'est qu'un rêve? Ce sont des images et des sensations. Le cerveau produit des images, nous éprouvons des sensations, et à l'intérieur de ça, il y a la place pour rien d'autre que ces images. C'est plein comme un œuf, nos rêves. Il y a, par exemple, dans un rêve, on ne rêvasse pas. On n'a pas le temps, on n'a pas les moyens. On est totalement envahi par des images et des sensations. Mais quand on se réveille et qu'on a le souvenir vague comme ça, on transforme des images et des sensations en récits. Ouais. Et j'ai la sensation, y compris avec la tribu malocène, d'avoir fait ça toute ma vie.
C'est ce que j'allais vous demander. Quelle est la différence entre un roman et un rêve?
Le roman, c'est la continuation par des moyens rationnels, narratifs, structurés, de ce que me propose l'inconscient quand je rêve de façon tout à fait dingue. Enfin, chaque rêve est complètement dingue. Et comme je tiens le journal de mes rêves, depuis très longtemps et quotidiennement, quelquefois quand je rêve, il m'arrive de me dire, à l'intérieur du rêve, tiens, faudra que je note ça. Demain, c'est très intéressant. Mais ça peut être aussi parfaitement illusoire. Il y a cet exemple très célèbre d'Hitchcock, qui une nuit rêve un film prodigieux. Et il se dit, faut que je note ça pour m'en souvenir demain. Alors il prend vite un petit carnet, il note un peu son petit carnet, il se rendort. Le lendemain, il se réveille, il ouvre son petit calepin, et sur le petit calepin, il a écrit « Boy meets girl ». Un gars rencontre une fille, et basta.
Mais à la fois, c'est aussi un peu incompatible, roman et rêve. Dans le livre, à un moment, vous dites « Si un de mes anciens élèves tombe sur ces pages, il sera légitimement en droit de m'engueuler. Comment, monsieur, le coup du rêve ? C'est-à-dire, le coup du rêve, c'est Alice au Pays des Merveilles. À la fin, elle se réveille, elle a tout rêvé. Et vous interdisez à vos élèves de faire ça.
Je leur demandais de raconter tel ou tel truc qui leur paraissait un peu bizarre. Et je leur disais, surtout, ne vous sauvez pas par la fenêtre du rêve. Je suis derrière, par la porte du rêve. Je suis derrière avec un gros bâton. C'est le réel. Par exemple, un sujet de, de rédac que je leur avais donné, dont j'ai ensuite écrit un roman qui s'appelle Messieurs les enfants. Le sujet était le suivant, vous vous réveillez, parce que vous vous réveillez un matin et vous vous rendez compte que vous êtes transformé en adulte. Bon, complètement affolé, vous vous précipitez dans la chambre de vos parents et là, vous vous rendez compte qu'ils ont été réduits à l'état d'enfant. 5 ans, 6 ans maximum. Et là, j'ajoutais, et ce n'est pas un rêve, c'est le réel. Débrouillez-vous avec ça. Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous allez faire? Et là, c'est à partir de là qu'on s'amuse beaucoup.
Et oui, parce que c'est vrai que c'est un peu pénible. Quand à la fin, on se rend compte que c'était juste un rêve, c'est un peu trop facile. Mais il y a la phrase de Boris Vian, « Tout est vrai parce que je l'ai inventé ». Et parfois, on passe un peu notre temps à savoir ce qui est vrai, ce qui est faux dans un roman. Au fond, ça n'a pas tellement d'importance, ce qui est vrai, ce qui est faux, dans un roman. Si l'écrivain a vraiment vécu ça ou pas, peu importe finalement.
C'est-à-dire qu'au fond, c'est la fable de Nabokov. L'important, c'est jusqu'où avez-vous été trimballé. Regardez tout à l'heure, quand je vous racontais l'histoire du danseur sur le transatlantique, vous me regardiez et vous avez été trimballé très 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 loin, jusqu'à la conclusion, puisque avant de la faire, vous m'avez dit « mais vous n'allez pas me faire le coup » et bing, le poisson.
Je me suis retenu de pas dire « les boutons de manchette qui sont là !»
Les boutons de manchette n'étaient pas dans le poisson. Et dans la loi du rêveur, les boutons de manchette ne sont jamais dans le poisson non plus.
Et vous pouvez vous faire trimballer longuement, et c'est très agréable, dans la loi du rêveur, le nouveau livre de Daniel Pennac chez Gallimard. Merci beaucoup Daniel Pennac.
Merci Nicolas.
Europe 1.
Dans un instant, encore des livres, c'est à vous de me dire quel est votre grand roman. Cette semaine, c'est Tom qui nous appelle pour nous parler des livres de l'américain John Fante. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1.
La Voix est livre.
Chaque semaine, je vous demande quel est le livre au centre de votre bibliothèque, celui qui vous a changé, que vous offrez à tout le monde. Bref, votre livre préféré. Cette semaine, c'est donc Tom de Grenoble qui nous a contacté pour nous parler d'un roman de John Fante. Bonjour Tom.
Bonjour Nicolas.
Vous nous rappelez d'abord qui est John Fante ?
Alors John Fante, c'est un écrivain américain. Il est d'origine italienne et c'est au centre de tous ses romans. C'est un écrivain qui est très, très porté sur la mélancolie et ses racines italiennes au sein de l'Amérique de ces années-là. Il a beaucoup œuvré dans le cinéma, c'est ce que j'ai appris par la suite, et reste toujours un peu déçu par sa carrière d'écrivain. Mais je pense qu'il a vraiment une place à part. Et il me semble que désormais, on en entend de plus en plus parler.
C'est vrai qu'il a eu un succès tardif, mais en revanche, il a une postérité vraiment très importante. Et c'est notamment lui qui est le parrain littéraire de Charles Bukowski, qu'on connaît encore plus que John Fante, bizarrement. C'est vraiment Bukowski est le disciple de John Fante, dans le côté, on parle de décadence, de choses un peu trash, comme ça. C'est vraiment la même filiation. Quel est le livre en particulier de John Fante que vous avez choisi ?
Moi, le livre de John Fante que j'adore le plus et que j'ai découvert plus tard, c'est Mon chien stupide et c'est celui-là que j'ai offert à tout le monde.
Qui a été adapté récemment avec Yvan Attal au cinéma.
Voilà. Néanmoins, je voulais vous parler de Bandini parce que c'est ma découverte de John Fante et c'est le choc personnel qui a fait que j'ai adoré cet auteur-là.
Bandini, c'est donc, le anti-héros de John Fante.
Voilà. C'est son double, en fait. C'est lui. C'est ce que, à mon avis, c'est comment il se voit, lui. C'est donc Arturo Bandini, l'héros de ce roman, qui s'appelle Bandini en français, mais je crois qu'en anglais, il a un autre titre qui veut dire En attendant le printemps, je pense. Et donc, c'est l'aîné d'une famille de 3 enfants, d'Italo-américains, dont le père s'appelle Svevo, qui est maçon, qui est un viveur, qui est quelqu'un d'assez autoritaire, mais c'est un flambeur, un gars qui joue au poker et qui est pas très très agréable. Voilà, un gars un peu rustre, un peu frustre. Et puis Maria, la mère, qui est vraiment la femme dévouée, la catholique, la sainte, comme on imagine certaines mères dans le fantasme des familles italiennes. Puis il y a ces 3 enfants-là qui sont plutôt mal insérés au sein des écoles dans lesquelles ils sont inscrits. S'inscrit dans une école catholique, là, en l'occurrence. Et puis Arturo, qui est le plus grand, qui a 14 ans au moment du récit, s'aperçoit que ses parents ne payent pas l'école, qu'ils ont des ardoises chez l'épicier d'à côté, que son père joue beaucoup au poker et perd beaucoup d'argent, voilà. Et il prend conscience de ça, et il commence à avoir un peu honte de sa situation, en fait.
Et puis d'ailleurs, Bandini, dans les autres livres qu'il met en scène aussi, c'est toujours voilà, le récit de l'errance, de la dèche, des frustrations, mais ce faisant, c'est aussi lui qui observe le monde et qui nous le raconte, et qui nous le dévoile d'une certaine manière.
Voilà, moi je trouve que c'est ça qui est incroyable chez Fante, quoi. C'est le loser magnifique, quoi.
Ouais,
c'est le gars qui nous raconte les trous à ses chaussures et on a l'impression de voir des étoiles. C'est quelque chose d'incroyable qu'il a réussi à faire, et c'est ça, moi, qui m'a vraiment bouleversé profondément.
Je crois que vous êtes instituteur, vous conseillez pas quand même John Fante à vos élèves, si ?
Non, pas encore. J'ai des enfants plus petits, on commence plus gentiment là.
Parce que c'est très cru, hein, faut dire, c'est la vérité crue.
Alors ouais, moi je trouve ça cru, violent, âpre, plus âpre que cru. Je trouve que c'est vraiment, enfin, il y a plein de sentiments exacerbés. Là, le héros de Bandini, il est capable de dire que sa mère, il l'adore plus que tout après lui avoir volé de l'argent. Et puis il va se confesser parce qu'il a honte de ça. Et puis en rentrant, elle lui fait une réflexion et il dit clairement qu'il a envie de lui cracher au visage. Enfin, c'est vraiment de la violence, je trouve. C'est rugueux, ça bouscule, c'est tout exacerbé. Mais c'est de l'intime, en fait. C'est de l'intime, c'est de l'intime dévoilé, en fait, écrit, quoi.
Comment vous l'avez découvert ? Il traînait dans une bibliothèque ou on vous l'a conseillé ?
Ça ne va pas être très glamour, mais je traînais dans les rayons du supermarché à côté de chez mes parents quand j'étais ado.
C'est bien.
Je regardais les bouquins et je suis tombé sur ce 10-18 là, dans les années 80. Et ça m'a attiré. Et franchement, je n'ai pas regretté, avec sa couverture bleue et ce visage d'homme fatigué dessus. Et je l'ai acheté, donc.
Ben, c'est parfait comme découverte. Merci beaucoup, Tom, de nous avoir appelé.
Merci à vous.
Depuis Grenoble. Et si vous aussi, vous voulez partager le livre au centre de votre bibliothèque, celui que vous avez lu plusieurs fois, qui vous a marqué, qui vous a changé, que vous offrez, écrivez-nous. Il existe plusieurs moyens. Envoyez-nous un mail avec votre numéro de téléphone et le livre dont vous voulez parler à l'adresse livre@europe1.fr. Sinon, un message sur la page de l'émission ou vous me contactez directement via Twitter. Nous attendons vos bonnes idées. Dans un instant, encore des livres, nous partons visiter la bibliothèque de Frédéric Lenoir.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est Livre.
La Voix est Livre continue, il est temps de quitter un peu ce studio. Frédéric Lenoir a publié son dernier roman chez Albin Michel, La Consolation de l'Ange. C'était l'occasion de voir de quel livre il se chauffe. Nous sommes allés visiter sa bibliothèque. Bonjour Frédéric Lenoir.
Bonjour.
Merci de nous accueillir chez vous, enfin chez vous. On n'est pas vraiment chez vous parce que votre appartement est en rénovation et donc vous êtes logé, on vous héberge, mais vous avez quand même ramené des livres, heureusement.
Oui, on ne peut pas vous en passer. Livre, en fait, voilà. On ne peut pas vivre sans livres, mais c'est vrai que j'en ai pas beaucoup. Là. Je dois en avoir une cinquantaine, alors que je dois avoir plus de 3000 livres sinon chez moi.
Bon, dommage pour nous, mais en revanche, en arrivant chez vous, j'ai vu une plaque à l'entrée. Une plaque en hommage à Georges Wolinski qui habitait dans cet immeuble.
Il a vécu 40 ans dans cet immeuble. Et moi aussi, quand j'ai découvert cet appartement, j'étais très ému de voir que Georges avait vécu là, parce que je l'ai un peu connu. On n'était pas intime, mais disons que je l'ai rencontré plusieurs fois. Et c'était un homme, au-delà de son talent, que j'adore, c'était un homme charmant, délicieux. Et j'étais très, très ému de vivre dans cet immeuble où il a vécu si longtemps.
Voilà, ce qui en rappelle, dessinateur pour Charlie Hebdo, tué évidemment en 2015 à Charlie Hebdo. Et justement, sur votre table basse, il y a un livre de Wolinski.
Et en plus, le titre, c'est « Le bonheur est un métier ». Et vous savez que j'ai pas mal écrit sur le bonheur, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et c'est vrai que voilà, c'est sympa de relier une de mes thématiques préférées avec cet homme, qui était un homme heureux, hein, c'était un homme joyeux, qui avait son côté pessimiste, évidemment sarcastique, etc. Mais au-delà de ça, je pense que c'est un homme qui aimait les gens. Qui était vraiment très humain. Et puis, c'est bien triste qu'il soit parti. Voilà.
Et qu'est-ce qui vous plaît dans ses dessins ?
C'est extrêmement drôle. C'est
l'espièglerie.
Oh ben non, mais il suffit d'ouvrir, on voit les têtes des gens, les caricatures. Bon, le sexe est assez omniprésent.
Oui, mais
c'est pas fait pour me déplaire. Pas dire que je suis obsédé, mais disons que je trouve que la sexualité, c'est quand même un élément essentiel de nos vies. On n'en parle pas beaucoup, c'est quelque chose d'un peu tabou, d'un peu secret. Puis là, voilà, il révèle tout. Il décrit tous nos fantasmes. Alors, on les a pas tous, heureusement. Mais je pense que de pouvoir lire dans des BD un peu satiriques, etc., une caricature du sexe, bah ça fait du bien. C'est une catharsis. Comme disait Aristote, on a besoin du théâtre, on a besoin du dessin, etc., pour exprimer des émotions ou des sentiments qui sont un petit peu cachés, un petit peu refoulés. Donc je trouve que ça fait beaucoup de bien que des dessinateurs parlent de sexe.
Justement, c'est toujours étonnant de constater qu'il est plus compliqué de parler de sexe à une heure de grande écoute que de parler de faits divers ou de meurtres atroces. Oui. Comment vous expliquez ça ?
Et bien, à cause de la pudeur. C'est-à-dire que le sexe, évidemment, ça touche à quelque chose, une passion sur lequel on a souvent de honte. Et donc, on n'ose pas parler, avouer nos fantasmes, nos désirs, nos manques, nos défaillances. Donc, c'est quelque chose qui touche à l'intime et à la pudeur. Donc, je crois que c'est normal que ce n'est pas si facile que ça de parler de sexe. Et en même temps, ben, ça fait du bien quand on peut se lâcher un peu, en parler entre amis, on le voit très bien. Dès que tes copines se rassemblent, elles parlent tout de suite de sexe. Dès que tes copains se rassemblent, ils parlent tout de suite de sexe. C'est quand même le sujet dont on a besoin de parler parce que c'est tellement présent dans nos vies que si on ne peut pas le partager avec quelques-uns, ce serait quand même difficile.
Et j'ai remarqué qu'on ricane souvent quand on parle de sexe. Les gens ne peuvent pas s'empêcher de ricaner dans les émissions où ça parle de sexe.
Oui,
comme
mais
si
ça,
c'était...
c'est en public.
Voilà,
pas
oui.
En privé. En privé, on rit franchement. On ricane en public parce que voilà, c'est le sujet qui met un petit peu mal à l'aise.
Alors qu'on peut parler de meurtre, de tuerie, il n'y a pas de problème.
Oui, oui, oui. Mais ça, bon, on est moins concerné peut-être parce que je dirais qu'on est plus facilement touché personnellement par les questions sexuelles, peut-être moins par les questions de meurtre. Je pense qu'on n'a pas tous un meurtrier qui frétille en nous et qui a envie de tuer tout le monde.
Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle finalement, cet état de fait. Alors, bon, il y a quand même quelques livres, c'est ce qu'on disait. Et évidemment, il faut qu'on commence par un auteur qui vous est cher, c'est Spinoza. Et là, vous avez L'Éthique, qui est son livre le plus connu.
Oui, il y a quelques livres que je trimballe toujours avec moi en voyage, où que je sois, etc. C'est, parmi ces quelques livres, il y a L'Éthique de Spinoza. Si vous me posez la question un peu bateau, c'est cas de le dire, quel livre vous emporteriez sur une île déserte ? C'est ce livre-là. Parce que c'est pour moi un condensé extraordinaire de réflexion métaphysique et éthique sur le sens de la vie, sur l'être humain, sur nos passions, sur nos émotions. Je crois que c'est le plus grand livre de l'histoire de la philosophie. Bon, avant moi, des gens comme Goethe, Nietzsche ou Einstein l'ont dit, hein, donc c'est pas un scoop, mais c'est sans doute le livre à lire si on s'intéresse à la philosophie. Le problème, c'est qu'il est très dur à lire. Et c'est un livre qui demande d'être relu. Et il y a des fois, on lit 10 fois le même passage et la 11e fois, on comprend. Et là, il y a quelque chose de lumineux qui se passe et il y a un éclair comme ça dans le ciel. Et ce qui fait que ce livre m'a apporté plein d'éblouissements dans ma vie, il continue de m'en apporter.
C'est idiot ce que je vais vous demander, parce qu'on ne peut pas résumer Spinoza en quelques secondes, mais quel est l'enseignement principal de Spinoza ?
J'en retiendrai deux, parce qu'il y en a énormément, il touche à tout. Un enseignement métaphysique, ce qu'il dit sur Dieu. Il nous dit, au fond, Dieu, ce n'est pas un être, une personne extérieure au monde, c'est le monde, c'est la nature. On pourrait dire, c'est toute la réalité, la substance du monde qui est à la fois matière et esprit. Et Spinoza relie la matière et l'esprit, ne sépare pas les deux. Il nous dit, notre corps est relié à notre esprit, notre esprit est relié à notre corps. Il ne faut pas opposer les deux, comme Descartes l'a fait, dans une dualité qui a eu un impact très fort en Occident. Donc, il relie le corps et l'esprit. Il nous dit, Dieu, c'est la totalité de ce qui est, de la matière et de l'esprit. Et puis, donc, c'est une forme de panthéisme, on pourrait dire, mais c'est très éclairant. La deuxième chose, c'est L'Éthique. L'Éthique de Spinoza, le nom du livre s'appelle justement L'Éthique à cause de ça, c'est au fond comment orienter notre vie. Et il nous dit qu'il ne faut pas l'orienter à travers une morale extérieure, comme les religions qui nous disent ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. On doit l'orienter en fonction de nos aspirations profondes qui nous portent vers la joie. Et toute l'éthique de Spinoza est fondée sur la joie. Qu'est-ce qui nous met dans une joie profonde et une joie éclairée par la raison, pas simplement une joie passionnelle, une joie qui serait liée à un plaisir immédiat, mais une joie qui correspond à l'accomplissement de notre nature profonde. Et donc c'est formidable, je trouve, de fonder une éthique, une morale sur la joie. C'est quelque chose qui va tellement à l'encontre de tout ce qu'on a connu avant et après, parce que Kant va fonder à nouveau une morale sur le devoir. Donc là, je trouve très libérateur l'éthique de Spinoza. C'est pour ça qu'elle a inspiré tant de penseurs, d'artistes, notamment après, parce que c'est une morale de la vie.
Mais alors oui, chez Spinoza, c'est une joie quand même effectivement raisonnable. C'est pas une joie de jouisseur comme ça où on fait tout ce qu'on veut quand on en a envie.
C'est comme pour Épicure. Hein. On connaît Épicure comme le philosophe du plaisir et de la jouissance, mais c'est un plaisir modéré, c'est un plaisir discerné, c'est un plaisir rationnel. Et Épicure nous dit, il vaut mieux avoir peu d'amis, mais des amis de grande qualité, que plein d'amis qu'on connaît mal. Il vaut mieux manger peu des mets de qualité que de se baffrer de mets qui ne sont pas de qualité.
Un verre de vin plutôt que 10 qui nous rendront malades.
Exactement. Et donc Spinoza est tout à fait dans la même logique, sauf qu'il remplace le plaisir par la joie. Lui, c'est le philosophe de la joie qui est l'accomplissement de la vie. Il nous dit, au fond, tout être vivant est poussé, fait un effort pour grandir, pour persévérer dans son être et pour grandir. Chaque fois qu'il grandit, que sa puissance vitale augmente, il est dans la joie. Chaque fois qu'il diminue, chaque fois qu'il ne peut pas atteindre son objectif profond, qu'il ne peut pas se réaliser, il est dans la tristesse. Et il nous dit, la joie et la tristesse sont les deux sentiments de l'être humain, fondamentaux. Et donc, il faut tout faire, tout mettre en œuvre dans notre vie pour aller vers la joie. Et cette joie-là, elle se découvre par la raison. C'est notre raison qui va nous aider à discerner qu'est-ce qui est fait pour nous. Quelles sont les personnes ou les objets auxquels on peut tourner notre désir pour grandir et pour être dans la joie. Donc toute la philosophie de Spinoza, c'est une philosophie du désir et de la joie. Comment utiliser notre désir, puisqu'il nous dit le désir est l'essence de l'homme. Il ne faut pas supprimer les désirs, comme on pourrait l'entendre dans certaines philosophies stoïciennes ou dans le bouddhisme. Il nous dit au contraire, l'être humain a besoin de désirer. C'est l'essence de la vie. Mais il faut qu'il oriente ses désirs par sa raison vers des personnes ou des choses qui nous font grandir et qui nous mettent dans la joie.
Et juste à côté de Spinoza, il y a une bande dessinée dédiée à Gérard Depardieu, qui est magnifique, que j'ai lue, de Mathieu Sapin, qui est un dessinateur qui a suivi Gérard Depardieu, c'est ça ?
Ben, en fait, je ne l'ai pas encore lu parce qu'on me l'a envoyé.
Ah, mais vous êtes particulièrement fan de Gérard Depardieu ? Pourquoi on vous offre ça ?
Non, alors honnêtement, je ne sais absolument pas. Je crois que c'est l'auteur qui me l'a envoyé. Et je suis pas... Si, Gérard Depardieu, disons qu'il y a des... Évidemment, il y a à boire et à manger. C'est le cas de le dire le concernant, hein, c'est un bon vivant. Il y a des films fantastiques de Gérard Depardieu. Je pense aux Valseuses, je pense à Cyrano de Bergerac, etc. Après, le personnage, des fois, je le trouve un peu too much. Voilà. C'est pas forcément quelqu'un qui j'aurais le plus de sympathie pour tout, mais disons que c'est un bon vivant. Voilà ce que je dis, c'est un bon vivant, c'est un homme joyeux. Après, j'adore la bande dessinée.
Alors voilà, c'est pour ça que je vous parlais de ça, parce que on n'est pas chez vous, donc, mais vous m'avez dit que vous aviez
au moins un millier de BD. Mais après, c'est très classique. Hein. J'ai tous les Tintins, tous les Astérisques, tous les Lucky Luke, tous les Schtroumpfs, toutes les BD. Après, je me suis passionné pour Torgal, pour ce que fait Van Damme de manière générale. 13,
ouais,
j'ai adoré ça quand j'étais ado. Et puis, donc je lis beaucoup de BD classiques en fait. Je suis moins branché sur de la BD très contemporaine. Je connais pas les auteurs d'aujourd'hui quasiment. Ça s'est arrêté pour moi il y a 25-30 ans et j'ai plus tellement racheté de BD depuis, mais je me replonge dans les BD de mon enfance et c'est ça qui est merveilleux. C'est la Madeleine de Proust.
Voilà, c'est ça. C'est une forme de nostalgie que vous entretenez.
Ah oui. Je trouve que, vous savez, on dit souvent qu'il faut vivre dans l'instant présent. Je suis le premier à dire dans mes bouquins sur le bonheur, sur la joie, il faut vivre dans l'instant présent. Mais pas que. Il faut aussi revivre des souvenirs heureux de notre enfance. Et moi, j'ai eu une enfance heureuse par deux choses. La nature. J'ai eu la chance de vivre dans un jardin avec la nature, donc ça m'a beaucoup nourri. Puis j'avais des bandes dessinées parce que nos parents nous avaient abonnés à Tintin et à Spirou.
Donc, magazine.
Les magazines. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert toutes ces BD. Et puis après, dès que j'ai eu 10 ans et de l'argent de poche, j'ai mis tout mon argent de poche à acheter des BD.
C'était dans quel coin ?
À Dourdan, dans l'Essonne.
D'accord.
Je suis né à Madagascar, en Afrique, mais je suis rentré en France, j'avais 2 ans, donc je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Et après, entre 2 ans et 10 ans, j'ai vécu à Dourdan. Puis après, mon père a eu des responsabilités importantes, on a dû venir à Paris. Mais on a continué d'aller à la campagne tous les week-ends et ça m'a fait beaucoup de bien.
Alors, il y a une autre réflexion qui me vient en croisant le titre d'un livre qui est là chez vous, qui s'appelle « Que faire des cons ?» de Maxime Revers. Je ne sais pas ce que c'est que ce livre, mais il y a beaucoup de livres comme ça qui disent la connerie ou les cons.
Ou la femme parfaite est une connasse.
C'est bizarre ce genre d'expression, non ? Parce qu'on est toujours le con de quelqu'un. Comment on peut se permettre de dire les cons, c'est les autres ?
Ben alors, j'ai ce livre parce que j'aime beaucoup Maxime Revers. C'est un philosophe qui est un des meilleurs spécialistes de Spinoza. On s'est rencontrés après que j'ai sorti mon livre, Le miracle Spinoza. Donc, on a déjeuné ensemble, on a beaucoup parlé de Spinoza. Et il m'a dit, je viens de sortir un livre sur les cons. Et du coup, j'ai été l'acheter à la librairie à côté de chez moi. Pour voir. Je ne l'ai pas encore lu. Mais je crois que ce qu'il veut dire, c'est qu'on est toujours justement le con de quelqu'un. Et donc, que faire des cons ? Il dit, à commencer par soi-même.
Tant mieux. Bon, merci beaucoup Frédéric Lenoir. On reviendra pour voir votre vraie bibliothèque,
Ouais.
Hein, quand vous aurez reménagé.
Merci, c'est un plaisir.
Merci beaucoup.
Europe 1.
De retour en studio, merci à Olivier Duval pour la prise de son. Et je rappelle le titre du nouveau livre de Frédéric Lenoir, La consolation de l'ange, c'est chez Albin Michel. Restez là, les libraires de La Voix et Livre ont médité toute la semaine dernière pour vous proposer les meilleurs romans. Ils vont essayer de vous donner envie de les lire. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La Voix et Livre.
Retour dans La Voix et Livre, il est l'heure des libraires avec aujourd'hui Jérémy Banel de la librairie Lamartine à Paris et Anne-Sophie Rouvelou, librairie L'Infini Comédie, c'est à Bourg-la-Reine. Salut les libraires.
Salut, salut Nicolas.
Et on commence avec vous Jérémy, vous avez amené un recueil de nouvelles américaines, ce sont mes préférées, allez-y.
Exactement, un recueil de nouvelles, alors on en fait plus tant que ça. Et là c'est un recueil de nouvelles d'un auteur qui nous avait déjà séduit, donc Matthew Neal Null. Qui nous avait déjà séduit avec un roman qui s'appelait Le miel du lion, paru il y a 2 ans dans la collection Terre d'Amérique. Et ils ont l'excellente idée cette fois-ci de compiler un certain nombre de nouvelles qu'il avait publiées par-ci par-là, elles sont au nombre de 7 ou 8, dans un très beau livre qui s'appelle Allegheny River.
Allegheny River.
Allegheny River, j'imagine que ça se prononce comme ça, du nom de la région dont il est originaire. C'est des nouvelles qui s'éparpillent un petit peu dans le temps entre la fin du 19e siècle et notre époque. Elles ne sont pas toutes datées. Pour beaucoup, c'est des ambiances plus qu'autre chose. Et elles parlent beaucoup de cette région donc, qui connaît, des gens qui l'habitent, de la nature, de l'histoire sociale, de l'histoire écologique, beaucoup de la région. C'est ça qui est assez touchant. On y retrouve des chasseurs, des pêcheurs, des travailleurs, tout un portrait. Ça fait penser un petit peu à ce livre Knock and Steve qui était sorti il y a quelques temps, un recueil de nouvelles aussi d'un auteur qui racontait toute sa région un peu dans le même coin.
Mais c'est campagne.
C'est très campagne. Non, c'est très campagne. J'aurais dû commencer par là.
Du nature writing, comme on dit.
Ça y ressemblerait, c'est ça. Et on passe effectivement d'une chose à l'autre. Et entre autres, une très très belle histoire qui raconte les travailleurs qui descendent, avant l'arrivée du chemin de fer, qui descendent sur la rivière avec les énormes bouts de bois qui ont été coupés dans la forêt, qui redescendent jusque dans la vallée. C'est magnifique. Il y en a des très ramassés en 3-4 pages qui tiennent très très bien. Des plus longues dans lesquelles on est content de s'installer un peu plus. Une histoire d'un chasseur avec un couple de d'aigles qui est très très belle aussi. Une très belle plongée dans cette région.
Eh bien je vous le pique, tiens. Allegheny River, c'est ça ? L'auteur,
c'est ça.
Vous nous rappelez ?
L'auteur, c'est Matthew Neal Null et ça a été traduit par Bruno Boudard.
Parfait. Merci beaucoup Jérémy Banel, je vous le pique, tiens. Anne-Sophie Rouvelou.
Alors, je vais vous parler d'un roman qui est absolument fantastique, qui s'appelle Les Optimistes, de Rebecca Mackay, qui paraît aux Escales. Et c'est marrant, Nicolas,
encore
parce que...
Encore un livre américain.
Oui, mais sauf que tu te rappelles notre dernière discussion pour l'émission spéciale de Noël, mm-hmm. où on disait le sombre, les bouquins sombres, etc.
Ouais.
Et bah, du coup, celui-là, il est dramatique, entre guillemets, mais tu sais qu'on peut toujours trouver de la lumière dans des choses
dans
assez sombres.
Dans le noir, bien sûr. Ouais.
Voilà, donc là, c'est le cas. Et en fait, donc ce bouquin, il a 2 personnages, 2 villes et 2 époques différentes, avec un même point de départ. Et ce point de départ, c'est le décès d'un jeune homme qui s'appelle Nico et qui est décédé du sida, en fait. Mmh. Et il va être vraiment la pierre angulaire de ce roman. Ça veut dire que Nico, il était un très bon ami de Yael, qui est notre premier personnage principal. Et Yael est un galliériste de 31 ans. Il travaille dans une galerie qui vit à Chicago. Et du coup, lui, il va voir aussi sa vie bouleversée par l'arrivée de l'épidémie de sida. Du coup, qui va décimer carrément tous ses amis. Et vous avez aussi dans ce roman un second personnage principal qui est Fiona. Et Fiona, donc, c'est la sœur de Nico qui est décédée au début du roman. Mmh. Et Fiona, on la suit principalement à Paris de nos jours. De nos jours, c'est en 2015. Et du coup, tout va s'entremêler. C'est-à-dire que, en fait, vous avez vraiment une intrigue où on est à Chicago dans les années 80. Dans le milieu gay aussi. Et on voit tout ce que la communauté a subi à cause du sida qui est arrivé, qu'on ne connaissait pas du tout. Et vous avez l'autre ligne directrice qui est donc Fiona, une femme du coup d'un certain âge, entre guillemets, qui cherche sa fille à Paris. Sa fille refuse de lui parler. Et tout ce qu'elle sait sur elle, c'est qu'elle a fait partie d'une secte et qu'elle pense qu'elle a un enfant. Elle a vu des vidéos, donc elle va parcourir Paris comme ça à sa recherche et essayer de la retrouver. C'est une fresque, ce roman. L'auteur, elle est extrêmement généreuse. Les personnages, ils sont super bien campés. Et ça donne aussi des informations sur 2 époques différentes. Sur les années 80 aux États-Unis, sur de nos jours à Paris, parce que ça se passe en 2015. Les attentats arrivent à un moment, donc il y a toute cette dimension un petit peu documentaire, entre guillemets. Et ça reste un roman d'une... densité incroyable et d'un niveau d'émotion qu'on atteint, qui est mais sensationnel. Vraiment, d'attaquer l'année avec un roman comme ça, c'est absolument bouleversant et beau.
Et vous nous aviez parlé de lumière, et ça s'appelle Les Optimistes. On a des raisons d'y croire,
ouais,
quand même.
Bah, tout à fait. Bah, tout simplement, j'ai pas envie, parce que quand on parcourt le roman, plus on va avancer, plus on va se rendre compte de pourquoi ça appelait Les Optimistes. Mais vous avez vu avec ce que j'ai dit que de toute façon, ce sont des personnages qui vont connaître justement des deuils, des séparations et qui malgré tout vont continuer, vont s'accrocher et vont se battre.
Et selon le New York Times, c'est l'un des meilleurs romans de l'année, carrément.
Mais je suis entièrement d'accord. Et
Les Optimistes.
Démarrer l'année comme ça, c'est fantastique.
Rebecca Mackay, merci beaucoup Anne-Sophie Rouvelou. J'en profite juste pour dire qu'on a la visite aujourd'hui d'un grand auteur américain qui est en régie, qui s'appelle Jack Hingson. Il faut lire absolument L'Enfer de Church Street. Je vous en avais déjà parlé à sa sortie il y a quelques temps chez Gallmeister, et on attend le prochain livre de Jack Hingson. Il viendra nous en parler bien sûr dans l'émission, mais d'ici là, je vous en prie, lisez L'Enfer de Church Street. À bientôt, merci les libraires.
Merci.
On part pour le rayon jeunesse maintenant avec Victor Dolande.
Il était une fois.
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 Dernier chapitre de La Voix est libre. Il est l'heure de se rendre dans le rayon jeunesse avec vous, Victor Dolande. Bonjour.
Bonjour, Nicolas.
Et aujourd'hui, vous avez choisi un livre intitulé Le navire des enfants. Oula, de Mario Vargas Llosa, le prix Nobel de littérature.
Eh oui, l'auteur péruvien, prix Nobel de littérature, c'était en 2010. Et lui aussi s'attaque à la jeunesse. Ce qui confirme quand même au passage ce dont on vous avait déjà parlé ici dans La Voix et Livre, de plus en plus d'écrivains pour adultes se lancent en littérature jeunesse.
Ce qui confirme qu'il n'y a pas de frontières. Exactement.
Mario Vargas Llosa nous offre ici un merveilleux conte fantastique à lire à partir de 8 ans.
Et ça parle de quoi?
C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Fonchito. Tous les matins, il aperçoit de son balcon un vieil homme qui contemple la mer, assis sur un banc. Ça l'intrigue. Un matin, juste avant de prendre son bus pour aller à l'école, Fonfon décide d'aborder le vieillard. Ce dernier commence alors à lui raconter une histoire qui remonte au temps des croisades. Des milliers d'enfants habillés en blanc et venus de toute l'Europe convergent vers Marseille pour ensuite se rendre à Jérusalem en bateau. Un voyage pour chasser les sarrasins de la Terre Sainte. Mais en arrivant à Marseille, seuls quelques enfants sont tirés au sort. Il n'y a pas assez de bateaux disponibles. La suite, c'est Marius, Youssef et Abigail qui vous la lisent.
Toute la ville s'était massée au port pour nous souhaiter bon vent.
Mais alors, vous étiez là, parmi tous ceux qui partirent dans ce bateau.
L'interrompit Fonfon, émerveillé, les yeux comme des soucoupes.
Comment cela peut-il être, monsieur? Dans ce cas-là, vous serez une très très vieille personne. Vous auriez plusieurs centaines d'années. Et c'est impossible, personne ne vit aussi longtemps.
C'est impossible, en effet, selon la raison,
fit le vieillard.
Mais dans ce monde, il y a bien des choses qui échappent au contrôle de la raison. La vie est pleine de ces choses étranges, surprenantes, incroyables, fantastiques. Elles évitent que nos existences soient monotones, soumises à la routine. Ce sont elles qui font de la vie une aventure véritable. Mon histoire est l'une d'elles, mon jeune ami.
Et pendant cette traversée, Nicolas, il va se passer bien évidemment plein d'aventures que je vous laisse découvrir.
Et c'est son premier essai en littérature jeunesse, Mario Vargas Llosa.
Ouais, premier essai, on peut dire vraiment réussi. On retrouve son style si particulier, cet art qui lui est propre de décrire ce qui l'entoure, des descriptions toujours très justes. Il y a aussi cette nostalgie de Mario Vargas Llosa pour une époque qui révolue, soulignant enfin les très belles illustrations de Susana Selej, des aquarelles douces qui donnent encore plus de relief à ce superbe conte.
Et on rappelle le titre, Le navire des enfants, donc de Mario Vargas Llosa, illustré par Susana Selej, c'est édité par Gallimard Jeunesse. Merci beaucoup Victor.
À la semaine prochaine,
Nicolas.
À la
semaine prochaine. Europe 1. C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide. Merci à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, pour la réalisation, et à Xavier Joly pour sa programmation musicale. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. À la semaine prochaine.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.